il y a 2 semaines, dans le bureau de Parjupiter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Ça va vous? On est sur une petite fin d'année tranquille.
Bah, oui, ça va. Bon, la 5e vague, le variant Omicron, le variant Zemmour. Ouais.
Non, mais Charline, il y a aussi les fêtes, la famille, les amis.
Oui, mais avec le masque, hein, et la dose de rappel.
Arrête,
attention.
Dis Guillaume, tu vois bien qu'elle déprime.
Non, ça va.
Charline, c'est aussi aujourd'hui la 2e vague des florilèges qui commence.
Ben, super.
Mais qu'est-ce qui lui arrive là?
Ça te fait pas plaisir qu'on prépare comme ça ensemble des best-of spéciaux avec des invités gold?
Ah, si, j'aime bien.
Charline. Je sais.
Ouais.
On va gérer.
Ok, ouais. Alors, pour aujourd'hui, moi je propose qu'on réécoute.
François Damiens. Ça va te redonner le sourire.
Voilà, et puis qu'est-ce qu'on pourrait rediffuser d'autre?
Merde à toi, j'ai trouvé le premier.
Angélique Kidjo.
Oui.
Pour son énergie, sa bonne humeur, par exemple.
Ok, d'accord, allez, ok.
Charline, tu dis ok à toutes nos propositions.
Mais c'est pas normal, ça.
Prends sa température, Guillaume.
Non, mets ton masque, Charline, mets ton masque, là.
Non, mais ça va, les garçons, et je vous ai bien eu. J'avais la flemme de travailler sur les florilèges, puis je vous ai laissé choisir les invités. Allez, à plus.
Charline. Franchement, moi je crois que je préfère quand elle est autoritaire.
La fourberie du patronat, quoi.
France Inter et bienvenue à l'écoute des Florilèges de Noël, cet endroit où l'actualité glisse sur le verglas de la blague. Nous avons retrouvé au grenier 2 belles émissions que nous vous proposons de réécouter. Angélique Kidjo, qui était venue nous voir en 2017, et François Damiens en 2016. Un programme donc garanti sans Covid, mais avec un peu de Éric Ciotti déjà à l'époque. Quant aux chroniques,
oui.
Cher Alex Vizorek.
J'ai de tout. J'ai une chronique de Chewbacca sur Angélique Kidjo. Il y avait beaucoup de love, bien évidemment. J'ai une chronique de Guillaume Meurice sur le congé menstruel. Je ne m'en souviens pas, mais je me réjouis d'ailleurs de la réécouter. J'ai une chronique de Walidia, mais est-ce que on ne dirait pas plus un brûlot de Walidia?
Un pamphlet,
exactement,
sûr.
De septembre 21. Et on terminera par une chanson de Fromet assez récente, puisque Putana de Omicron.
Ah oui, je me souviens. Parce qu'Omicron, c'est assez récent,
c'est assez récent.
Oui. Allez, nous allons rejoindre Angélique Kidjo, mais qui a tellement enjaillé cette émission comme elle enjaille tout.
Exactement.
Attention, elle va éclater vos enceintes. C'est parti.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Lady Marlène, vous avez vécu votre enfance au Bénin, donc...
arrêtez.
Dans une famille qui laissait aux enfants la possibilité de s'exprimer.
Ouais.
Vous êtes Angélique Kidjo.
Je faisais une blague, mais c'était pas bon.
C'est drôle.
Non, mais en plus, j'ai une tête de mal, une Dietrich. Moi, je l'adore, mais enfin.
Mais c'était une diva, et le sous-titre de votre livre, c'est.
Moi, je suis pas une diva. Attends, laisse-moi tranquille.
Ah, c'est marqué sur votre
livre. Moi, ça m'engage pas, c'est pas moi qui l'écris.
Ah, c'est l'éditeur.
Très bien. Donc, l'éditeur, c'est Fayard, on le salue, a choisi de sous-titrer votre ouvrage Mémoire d'une diva engagée. Mais l'ouvrage s'appelle La voix et le miroir de l'âme. Là-dessus, vous êtes d'accord?
Je prends.
Vous validez?
Je valide.
Votre biographie, donc. Vous passez votre enfance au Bénin dans une famille, je disais, qui laissait aux enfants la possibilité de s'exprimer. D'ailleurs, votre mère déjà une troupe théâtrale. Vous êtes monté sur les planches assez tôt, vous avez chanté assez tôt. Vous êtes né en fait au Dahomey quand le Bénin était français. Vous l'avez fui à cause de la dictature communiste. Et on apprend en lisant votre livre que lorsque vous avez découvert ce qu'était l'apartheid, vous dites « la seule façon de me calmer, c'était d'écrire une chanson ». Donc, on connaît la chanteuse Angélique Kidjo. L'auteur, elle, celle qui écrit des chansons, elle est née avec la colère et la découverte de l'injustice, alors, c'est ça ?
C'est pas seulement de la colère que j'avais, c'était plutôt de la peur mélangée à de la colère, parce que j'ai grandi dans une maison où mon père et ma mère disaient toujours que l'être humain n'était pas une question de couleur, et qu'il fallait aller au-delà de la couleur, et qu'on était au même niveau que tout le monde, on était égaux à tous les êtres humains. Et tout d'un coup, bam, tu vois, en Afrique du Sud, de ton continent, qu'il y a la majorité des Noirs qui souffrent au milieu d'une minorité de Blancs. Et tu te dis, si je sors d'ici, ça peut m'arriver. Et je me suis pas préparée à cette haine-là, à cette violence qui peut m'arriver sur le coin du bec. Et c'est là mon problème. Mon problème est arrivé, je me suis tournée vers mes parents, j'ai dit, mais vous m'avez menti toute ma vie. Vous essayez de me faire comprendre que je ne peux pas ne pas aimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau. Mais moi, ma couleur de peau pose problème à d'autres personnes. Comment je gère ça, moi? Et quand j'ai écrit cette chanson, Azanakpe, qui veut dire « Le jour viendra », ma première mouture a été très violente, il faut l'avouer. Et mon père m'a dit non, Non, pas chez moi. Quand tu es un artiste, tu n'es pas dans la violence. Tu n'es pas la personne qui ferme les portes, tu es la personne qui ouvre les portes. Tu es la personne qui crée des ponts culturels, qui amène les gens ensemble à parler de leurs différences, à se fédérer autour d'une idée. On peut ne pas être d'accord, mais pas dans la violence ni dans la haine. Donc j'ai réécrit cette chanson qui est devenue un hymne à l'amour, en fait, où je dis que je rêve d'un monde où il n'y aura plus d'oppresseurs ni d'opprimés. Et c'est ça ma musique, c'est une cathartique pour moi, ça me sert toujours pour arriver à me calmer. Elle devient créatrice, en fait, cette colère. Elle me permet de faire passer un message et de faire dire aux gens ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et ce qu'on peut faire ensemble pour pas que ça se refasse plus. C'est tout.
Avec Angélique Kidjo, voici le premier sujet de cette émission. Le prix Nobel de la paix 2014, Malala, dénonce le silence de son homologue, prix Nobel de la paix 91, Aung San Suu Kyi, à propos des Rohingyas, cette minorité ethnique musulmane persécutée en Birmanie. C'est le clash entre les Nobel de la paix. Alors dans ce cas, mais qui pour la ramener la paix alors ?
Oh, le regard mauvais dans chez
moi. Mireille et Mathieu.
Angélique Kidjo.
Moi j'aime bien cette chanson.
Mais oui.
Parce que la paix, on s'en éloigne de plus en plus.
Effectivement. Alors là, je m'adresse à celle qui, en 2002, a chanté au concert du prix Nobel de la paix octroyé à Jimmy Carter. C'est l'année d'ailleurs où vous êtes devenue ambassadrice de bonne volonté à l'UNICEF. Mm-hmm. Angélique Kidjo, quelle réaction ça vous inspire, ça, qu'un prix Nobel de la paix se taise alors qu'il y a des exactions dans son pays, en Birmanie, et qu'une autre prix Nobel finisse par dénoncer ce silence? Ça ne doit pas vous laisser indifférente, ça, j'imagine.
Non, ça ne me laisse pas indifférente. Je dis toujours que gouverner n'est pas facile, être dans la critique, c'est facile. Quand on fait quelque chose et que les gens vous critiquent, c'est parce que les gens, quelque part, aimeraient bien être à votre place, ils ne peuvent pas l'être.
Non, non.
Il faut laisser le temps peut-être à un Aung San Suu Kyi pour trouver une solution, parce que ce n'est pas facile. Son silence est assez gênant, c'est un fait, mais essayons de voir s'il y a quelque chose derrière. Elle est en train d'essayer de convaincre ce gouvernement d'intervenir et de trouver une solution sur le long terme.
Alors, il semblerait qu'elle ménage plutôt les militaires, mais le fait que Malala le dise publiquement, tiens, Aung San Suu Kyi ne dit rien, c'est-à-dire, on a l'impression que, comme Aung San Suu Kyi est prix Nobel de la paix, personne n'ose l'égratigner, sauf une homologue, elle aussi prix Nobel de la paix, qui ose dire quelque chose.
Je ne pense pas, c'est parce que le prix Nobel de la paix ne veut pas dire que si on fait quelque chose qui est mal, on n'a pas le droit de parler. Ça veut dire quoi, ça? Prix Nobel de la paix, c'est pas le bon Dieu, hein? Donc, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, prix Nobel ou pas, on le dit. C'est normal que Malala, elle dise ce qu'elle a à dire, parce que elle a vécu la dictature des extrémistes qui l'a rendue la personne qu'elle est aujourd'hui. Donc, elle comprend cette douleur-là. Elle est dans cette douleur qu'elle comprend, elle l'exprime. Je l'entends, sa douleur. Mais en même temps, je lui demande de laisser le temps aussi à Aung San Suu Kyi de lui répondre ou de faire quelque chose.
En tout cas, Malala a remis encore une fois en lumière donc la persécution des Rohingyas, peuple le plus persécuté au monde selon l'ONU. Il y a déjà 127 000 à avoir fui au Bangladesh, où, on le rappelle, c'est quand même la mousson. Donc c'est quand même,
Ils sont persécutés par des bouddhistes, c'est comme l'info. Il y a des bouddhistes extrémistes.
Ça, les bouddhistes extrémistes, ces deux mots-là sont antinomiques, ça va pas.
C'est la réalité. Angélique Kidjo est avec nous, et en face, Djoubaka, le spécialiste musical, le programmateur de cette émission, Djoub.
Bah oui, et on va parler musique. Eh bien, drôle de métier.
Ah,
t'es d'accord. Il y a un drôle de métier à faire en matière de musique aujourd'hui, c'est celui d'ethnomusicologue. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui étudie les rapports entre la musique et la société. Mais quand ce terme est né dans les années 50 en Hollande, on était en pleine période coloniale, et ça servait à l'époque à comparer les musiques du monde entier aux musiques occidentales. Alors il y a ceux qui sont bien installés dans leur canapé, et puis ceux qui vont sur le terrain, et qui vont enregistrer des chansons qui peut-être dans quelques années auront disparu de nos mémoires. Ce travail, en fait, Angélique Kidjo l'a fait en 95 pour préparer un disque qui s'appelle FIFA. Mmh. Et quand une artiste fait cette démarche, ça attise sa curiosité artistique, et nous entrons donc dans une autre dimension que celle de la collection, quoi. Et qui est très différente de celle d'un savant même illustre, puisque cet artiste va l'utiliser de manière créative. Donc, en 95, avec son mari Jean, elle loue une vieille Peugeot 504, ils partent avec un magnétophone 8 pistes, ils prennent la route du Nord Bénin, s'arrêtent à chaque village pour demander où sont les musiciens, et ils les rencontrent. Et pour enregistrer, en fait, il faut brancher le magnéto sur la batterie de la voiture et le soir trouver une solution pour que la batterie de la voiture soit chargée pour repartir, quoi. Voilà. Et dans ces paysages, en fait, et ces voyages sonores, vous devenez le spectateur privilégié d'un moment d'humanité et puis de cousinage, en fait, musicaux. Parce qu'un rythme qui est pris sur un continent peut avoir une résonance de l'autre côté du monde. Pareil pour les chants diphoniques et ça permet aussi de retrouver parfois des instruments qu'on aurait oubliés, qu'on n'aurait jamais vus, parce qu'il n'y a plus qu'une seule personne au monde qui sait en jouer. Voilà. On est d'accord.
Tout à fait d'accord.
Dans l'histoire de la musique...
Bah, c'est elle qui a écrit votre chronique, hein, c'est Angélique.
Dans l'histoire de la musique, les chercheurs de son, alors les plus connus, sont la famille Lomax. C'est un père et fils qui ont travaillé pour le Congrès américain afin de collecter sur bande en fait les chants des anciens esclaves, les musiques liées aussi aux nouveaux immigrants venus d'Europe. Et les Lomax pensaient, à cette époque, dans les années 30, que l'endroit où la musique aurait subi le moins d'influence extérieure devait se trouver en prison. Pas de radio, pas d'informations extérieures. Et donc, ils vont faire le tour en fer des pénitenciers du sud des États-Unis pour chercher la perle rare. Et c'est là qu'ils font la connaissance d'un gars qui s'appelle Lead Belly, qu'on pourrait traduire par ventre de plomb. Alors, Lead Belly, c'est un gars qui est né dans le sud des USA. À l'âge de 5 ans, il reçoit un premier instrument, un accordéon. Et puis, il devient guitariste et ouvrier le jour... quand il est jeune homme. Mais en fait, il a une passion, hein, c'est la torgnole, la bagarre, il passe son temps à se bagarrer, quoi. Donc il chope 20 piges de prison pour une bagarre. Il écrit...
Ah oui, grosse bagarre.
Grosse bagarre. Il envoie une chanson au gouverneur local, qui est une ode au gouverneur local, il est libéré. Quelques années plus tard, il retourne derrière les barreaux pour une tentative de meurtre. Et là, les Lomax rentrent dans le jeu, quoi. Et Lead Belly, en fait, il connaît le répertoire afro-américain, mais il connaît aussi le répertoire hispanique, il connaît tous les chants traditionnels qu'on dirait folk, en fait, des États-Unis. Donc c'est un jukebox vivant. Avec lui, ils vont enregistrer une centaine de chansons.
Ouais.
Et les Lomax remettent une pétition pour faire sortir Lead Belly de prison.
Il va y retourner encore.
Non, là, il part pour de vrai.
Là, il fait du MMA.
Et ça marche. Et dans les années 40, en fait, Lead Belly va devenir, en fait, l'artiste de référence pour des grands musiciens américains de folk comme Woody Guthrie ou Pete Seeger, à qui il va transmettre de cette chanson. Alors, si les magasins de disques à l'époque avaient un bac World Music, de musique du monde, on va dire, c'est sans doute là qu'on aurait trouvé ces disques, en fait. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui est ambigu dans le terme de what music, c'est que quand il est apparu, il désignait dans la tête des gens une musique en provenance des pays en voie de développement, alors que ces rythmes étaient joués pour certains depuis quelques siècles, qu'ils n'avaient rien à envier de par leur histoire et leur influence aux autres musiques. Mais bon, tout le monde aime les cases, les choses bien rangées, sauf que la musique, elle s'en fout, elle échappe à ça. Donc il faut que vous sachiez en fait qu'on est toujours l'exotique de quelqu'un. Quand j'étais à New York au début des années 90-2000, vous alliez dans le bac World Music et vous trouviez Edith Piaf, Georges Brassens, Moustaki, etc. Quoi. J'ai vécu la même chose. J'ai connu la même chose en Chine et au Japon. Et les Lomax, dans les années 50, en fait, ils sont venus en France enregistrer des musiques qui étaient référentielles pour eux, musique traditionnelle américaine. Ils sont allés en Auvergne, ils ont enregistré des bourrés. Donc tout l'intérêt, en fait, de ce travail, c'est de montrer notre proximité musicale, de voir les points de rencontre entre les cultures et de faire bouger les lignes. Et ce travail, bah, c'est aussi celui d'Angélique Kidjo, comme cette réinterprétation du Boléro de Ravel datant de 2007.
No te va mi miedo tu nace, no te va mi aruelo, mi arue mi aro tu nace, lo lo ya ova mi duelo, no viva mi ailo. Va no viva do tu nace. E alo lo no vinye, no viva, do to agbe yawo, no viva, do to agbe yawo, no viva. Mia ilo agbe le tekwa wo, mia ila, mia ilo vivida. Na mesia me. Dum, 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 dum. Va, no te va mi, mia do to nase. No te va mi aruelo, mi arue mi aroto nace. No lo ya ova mi duelo, no viva mi ailo. Fa,
niña, no viva, no toa güeyo, no viva, no toa güeyo, no viva, miailo, aguele te cuau, miaira, miailo, vivirá, na mesiame. Chijo e moni a me le cabe doma wose Chijo Vamilo Vamila Agwe a nyomi jovalo
Lolo Il y a tellement de voix que j'ai un très poil J'ai pris mon pied à l'air en studio Non te va mia duelo
Mia due, mia rotto nasce, la noia ova mi due lo, la viva mia ilo. No viva rotto ne asse, e allo no vigne, no viva rotto a quello, no viva rotto a quello, no viva mia ilo. Aguele te cuau, mi ahilo vivirá, no me siame.
Angélique Kidjo.
Featuring Angélique Kidjo.
Effectivement, t'as mis dans le loup, pas une. Le boléro de Ravel par Angélique Kidjo, que nous avions reçu donc en 2017. Alors on va poursuivre la conversation avec elle. Accrochez-vous Alex, il s'agit de clitoris.
Ah.
Et de femmes, il en est encore question. Angélique, merci avec ce troisième sujet. Cette rentrée scolaire marque la première fois qu'un manuel scolaire présente l'appareil génital féminin dans sa globalité, c'est-à-dire avec le clitoris. Et oui, en 1930, le clito avait carrément été chassé du dictionnaire. Sachez que les linguistes vigilants s'en étaient rendus compte.
Allô, bonjour, c'est Ploumenec.
Ah. Je vous appelle parce que j'ai relevé une petite erreur, page 48.
Oui.
Oui, il ne faut pas lire Valoris.
Valoris, oui.
Mais clitoris.
Bon, je vous remercie de m'avoir appelé, hein.
Oh, de rien, mais ça me choque, ce Valoris, alors j'ai préféré vous prévenir.
Gérard Jugnot dans On aura tout vu de Georges Lautner en 76. Donc, c'est le manuel scolaire paru aux éditions Magnard, manuel de SVT en quatrième année. Nous sommes en France, Angélique Kidjo en 2017, et c'est la première fois que le clitoris apparaît dans un manuel scolaire agrémenté d'une coupe anatomique. Dans les autres manuels, d'ailleurs, il est représenté par un point. Ça non plus, ça vous laisse pas indifférente, j'imagine, surtout avec le...
Mais ça fait partie du corps de la femme, donc on voit bien dans des livres de science ou de médecine, les hommes avec leurs organes génitaux, pourquoi pas les femmes, donc...
C'est une avancée pour les...
Moi, je trouve que c'est une avancée pour que les jeunes filles comprennent où c'est. justement. Et si les mecs ils savent pas, c'est leur problème. Moi, c'est pas moi de leur parler.
Comme c'est pas une, comme il a pas une fonction reproductive, c'est pour ça que c'était jugé inutile de le mettre dans les manuels scolaires.
Moi, je lutte contre l'excision des femmes. Le clitoris représente aussi le plaisir de la femme, et dans certaines cultures le plaisir de la femme est interdit. On a vu que la femme arrive vierge au mariage. L'homme peut faire tout ce qu'il veut, mais pas la femme. Pourquoi est-ce qu'on essaye toujours d'opprimer la femme dans sa sexualité? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas connaître le plaisir, que c'est l'homme seulement qui doit connaître le plaisir? C'est quoi cette histoire? Donc c'est pour ça que le clito, vu comment il est représenté, les jeunes filles sauront que cet organe fait partie de... Il n'y a pas à en avoir honte, et puis c'est tout.
Et voilà. Angélique Kidjo, on a un rôle à vous proposer.
On propose un sketch à l'invité. Vous savez peut-être qu'à Paris, il y a pas mal de gens qui critiquent Anne Hidalgo. Alors on s'est dit, ça serait bien que vous soyez Anne Hidalgo. Et puis
la
nous,
maire de Paris.
Ouais, la maire de Paris. Et nous, on est trois automobilistes et on n'est pas contents, quoi. On y va.
Ok.
Hidalgo, démission! Hidalgo, démission!
Hidalgo, démission!
Calmez-vous, mes chers administrés.
On a mis 3 heures pour venir. Hein.
Mais vous venez d'où?
De Notre-Dame.
Ah, quand même. Hein.
Alors, on est venu.
Pour vous plaindre?
Comment vous savez ça?
Vous êtes parisien?
Taubira, démission! D'abord, on trouve qu'il y a trop de pistes cyclables.
Mais c'est pour l'environnement.
Mais Paris sans pollution, c'est plus Paris.
Hein. Ah, c'est ça que vous voulez?
Tibéri, démission!
Il y a des avantages à être parisien.
Neymar?
Par exemple.
Ah, si le Qatar pouvait racheter les quais de Seine.
Ou Ronaldo.
Mais il y a aussi la culture à Paris.
Ah bon?
Il y a le palais de Tokyo.
Bah, ça sert à rien d'envier les villes japonaises.
Pardon, mais il y a Paris, le palais de Tokyo.
Ah bah, c'est encore plus con, ça. Pourquoi on l'a pas appelé le palais Paris à ce moment-là?
Ça, c'est pas de ma faute.
Mitterrand, démission!
Et la sécurité.
Alors, le 18e, c'est Bagdad. Le 19e, c'est Mossoul. Le 20e, c'est Raqqa.
Ouais, on l'a lu dans Valeurs Actuelles.
On l'a lu dans Valeurs.
Mais vous devriez prendre les transports en commun.
Ah non. Dans le métro, on capte pas RMC. Ah,
si vous voulez RMC, prenez les taxis.
Non, mais c'est pas une solution.
Qu'est-ce que vous proposez?
Bah, on voudrait que vous éteigniez la Tour Eiffel en hommage aux automobilistes parisiens.
Gustave Eiffel, démission!
Excellente idée, on fera des économies d'électricité.
Mais elle est contente en plus.
N'utilisez pas cet argent pour éclairer les pistes cyclables. Hein.
J'ai une question à vous poser.
D'accord, mais pas trop compliqué.
Vous êtes des automobilistes?
Ouais.
Et pourquoi ne vous prenez-vous pas le vélo?
Le vélo, elle est marrante.
Mais c'est beaucoup trop dangereux.
Hein. Les automobilistes parisiens roulent tellement mal.
Alain Prost, démission.
On va rester dans une certaine thématique. Oui. Tout à l'heure, on a parlé de clitoris dans les manuels scolaires. Avec Guillaume, j'ai l'impression.
Parlons d'autre chose que je ne comprends pas complètement, Charline. Le congé menstruel. Mais Guillaume, est-ce qu'il l'a compris? Eh ben, je ne sais pas, mais à l'époque, il avait essayé. On écoute.
Je vais vous parler de congé menstruel aujourd'hui.
C'est
Jack Parker, l'auteur du livre Le Grand Mystère des Règles, qui a relancé le débat il y a quelques jours. Ça permettrait aux femmes qui ont des règles douloureuses d'avoir des jours de congé tous les mois et d'arrêter de nous casser. Attendez, je vois qu'Alex Viserec qui a retouché ma chronique. Non, merci beaucoup Alex, mais c'est sérieux, hein, le congé menstruel. C'est une disposition qui existe déjà dans certains pays asiatiques, mais aussi dans les cauchemars d'Éric Zemmour. Beaucoup de femmes sont touchées par les douleurs tous les mois, et toujours aucune solution efficace n'a été trouvée. Je vous rappelle au passage que si les mecs avaient leurs règles, il y aurait déjà des tampax connectés en Wi-Fi qui donneraient les résultats du foot et la température de la guerre. Mais là, il y a que dalle.
Je vois pas les mecs avec les règles, parce que vous êtes trop douillet, vous pourrez pas. Ce par quoi nous on passe, vous pouvez pas. Dieu, il est pas con, hein, parce que s'il avait donné ça, alors, c'était la fin de l'humanité. Si
Dieu
vous
est pas con. Oh, tiens, Dieu est pas con. Et les règles, alors ce qui est marrant avec les règles, c'est que ça reste un sujet tabou partout et en France aussi. Alors j'ai voulu tester nos concitoyens. Je suis d'abord tombé sur un commerçant qui, lui, est plutôt pour le congé menstruel, avec des comparaisons qui, je dirais, lui appartiennent, quoi.
Là, je suis d'accord. Moi, j'ai eu toujours pas mal de personnel. Quand quelqu'un est souffrant et malade, faut le laisser reposer. Quand un cheval a beaucoup travaillé, on est au prêt pour se reposer.
Merci, monsieur.
Voilà. Donc, s'il y a des juments qui nous écoutent, hein, voilà, l'employeur qui saura vous comprendre. En cas de règles douloureuses, un petit tour au prêt. Vous broutez, un petit coup de cravache et ça repart. Alors, il y en a qui sont pour aussi ce congé menstruel, pour d'autres, et voilà, différentes raisons.
Parce qu'il y a des femmes, vraiment, quand ils ont leurs règles, c'est vraiment douloureux, ils disent. Et
voilà, c'est destiné à celles qui souffrent beaucoup, évidemment.
Et c'est pas sain aussi. Mmh. Hein.
C'est pas sain?
Ouais, c'est sale. Et hygiène, c'est-à-dire, alors, elle se trouve dans un bureau ou quelque chose, ou elle travaille dans un restaurant, ou n'importe. Moi, je trouve que c'est normal.
C'est contagieux.
Voilà. Où ça, alors, là, mais c'est... où ça, le tampon?
Attention, on va se trouver un endroit pour le lit maintenant.
Alors là, vous avez compris, bon, bah, il est plutôt, voilà, il est plutôt pour, mais c'est pour éloigner les femmes, hein, qui ont leurs règles, essentiellement des bureaux et de la nourriture. C'est vrai que souvent, une femme qui a ses règles, bah, ça en fout partout, hein, faut reconnaître.
Ah, mais qu'est-ce que t'en sais, toi, t'as pas vu ça?
Mais parce que je côtoie des femmes, j'en connais.
Et quand on a les règles, c'est sous les mains qu'on a le sang, on faut pas faire manger.
C'est ce que m'a dit ce monsieur. Moi, c'est de l'intelligence collective, hein, que je récupère tous les jours. Et faut être honnête, en cuisine, ça donne pas un super goût à la tarte aux pommes. Bon, donc là, c'est pour des raisons. C'est pour des raisons sanitaires. Alors, il y en a qui sont évidemment contre le congé menstruel, mais que ça amuse beaucoup.
Oui, oui, on n'arrête plus les conneries, là.
Vous pensez que c'est des conneries, là?
Non, je ne connaissais pas cela. Pourquoi pas le congé de la prostate?
Ah, bonne idée, hein, pour les hommes qui ont une prostate, dont la paroi se régénère tous les mois, hein, bien sûr. Alors, si ça vous fait mal au cul d'entendre ça, pensez à lui, hein. C'est pire, il a encore plus mal au cul. En tout cas, au championnat du monde des comparaisons, on est toujours au top. Alors, il y a d'autres hommes, hein, qui sont contre, parce qu'ils trouvent les règles comment?
C'est dégueu.
Comment ça, c'est dégueu?
Ah ouais, c'est dégueulasse.
Ah bon?
Ah, je ne veux même pas le savoir.
Mais s'il n'y a pas de règles, il ne serait pas là.
C'est un truc naturel qu'on ne devrait même pas en parler. Je suis un peu rétrograde, mais bon, ça me gêne. Ça me gêne.
Ouais. C'est vrai, vous pensez que vous êtes rétrograde?
C'est quelque part le début d'un manque de respect au taf.
Le début d'un manque de respect, mais aussi
c'est comme
quand même
ça que
t'es
né, mon gars. S'il n'y a pas de règles, tu ne serais pas né.
C'est le début d'un manque de respect, mais c'est aussi de la prise de conscience quand même. Hein. Tout est dans le « je suis peut-être rétrograde ». Il y a un doute. Alors allons voir plus loin, est-il rétrograde, par exemple, quand il fait lui aussi des comparaisons?
Si le mec il a une colique, alors il ne travaillera pas non plus, ça n'en finira jamais.
Vous pensez que les règles et la colique, c'est la même chose?
Ça fait mal moins souvent la colique. Mais qui dirait la vérité? C'est délicat, c'est n'importe quoi. Faut pas en parler en fait. Je suis un âne peut-être, mais bon, voilà.
Alors attention, non, les ânes ne disent pas autant de conneries que ça. Hein. On n'a jamais vu un âne refuser d'embaucher une femme parce qu'elle a ses règles ou parce qu'elle aura des enfants. On n'a jamais vu un âne faire une publicité Always Ultra en versant un liquide bleu turquoise sur des serviettes hygiéniques testées par la NASA. Donc qu'on foute la paix aux ânes, comme ce monsieur demande qu'on lui foute la paix parce qu'il est un peu à bout.
C'est ça, les tampons toute la journée, dans toutes les pubs, j'en peux plus, toutes les longueurs, toutes les couleurs, en long, en large. J'ai envie de gerber, ça me gêne. Rien que d'en parler, je touche plus ma femme.
Rien que d'en parler, je touche plus ma femme. Hein. Il dit quand même à la fin, donc on la salue au passage. Puis on a envie de lui dire bon courage et bon divorce.
On devrait lui filer une bave de temps en temps.
Je vous dirai où je l'ai trouvé. Alors, chacun ses problèmes. Bon, alors pour conclure, allons voir une femme quand même. Hein. C'est quand même les principales concernées. Qu'est-ce qu'elle pense de ce congé menstruel?
Non, ça, je suis contre. Attends, des congés pour les règles, des congés pour la maternité, des congés pour la connerie, c'est bon. Au Japon, ils prennent une semaine de repos. Ici, on est des grands feignants.
Et ça, il faudrait faire ça en France?
Mais tout à fait, mais moi, je l'ai fait pendant des années. Vous savez qu'il y a des cachous pour ça?
Des
comprimés, tu prends un cachou et puis basta.
Un cachou et puis basta, nous dit cette gynécologue en freelance. Je vous la conseille si vous en avez besoin. À mon avis, elle est pas chère. Je vous conseille également des dragibus pour lutter contre le mal de dos. Des fraises tagada contre la fracture tibia péronée. Mais malheureusement, toujours aucun vaccin contre cette maladie qui est la soumission volontaire au patriarcat et au capitalisme.
Guillaume Meurice, merci, le plus féministe d'entre nous.
Et merci à Jack Parker qui m'a inspiré cette chronique et je conseille son livre.
Time being blue, just holding my head, thinking of you.
Can't Hide It, c'était Curtis Harding que vous pouvez retrouver sur la playlist France Inter. Vous êtes à l'écoute des Florilèges de Noël. On a choisi le meilleur de nos anciennes émissions. Celle-ci date de 2016 et on va poursuivre avec un autre invité. Donc,
ah oui, on l'adore.
François Damiens.
Eh oui.
Oui, mais qu'est-ce qui nous le prouve dans le fond que vous êtes François Damiens?
Ah, tu veux ma carte d'identité?
Ah, vous l'avez sur vous?
Voilà.
Ah,
ouais. C'est bon, on se tutoie.
Ah, c'est l'état d'urgence. Oui, je vois. Carte d'identité. C'est lui, très bien, c'est bon. On peut démarrer alors. François Damiens, on peut vous voir dans Des nouvelles de la planète Mars, le dernier film de Dominique Moll, avec vous, bien sûr, avec Vincent Macaigne et notamment aussi Verle Battens, actrice flamande, excellente. Vous êtes dans ce film Philippe Mars, un ingénieur informatique qui non seulement ne sait pas dire non, mais en plus qui s'écrase aussi devant certaines personnes. Il ne sait pas dire non à sa femme qui laisse les enfants en pleine nuit. Il ne sait pas dire non à son collègue qui s'incruste ou à sa sœur qui laisse le chien. Bref, toute cette accumulation finit par mettre sa vie en péril, mais on ne dira pas plus. Alors, est-ce que votre personnage, Philippe Mars, il ne sait pas dire non, mais pourquoi?
Non, je pense qu'il n'est pas très sûr de lui. Il n'est pas très sûr non plus de la vie dans laquelle il vit non plus. Il essaye de donner de l'assurance à ses enfants alors qu'il n'en a pas lui-même, quoi. Mais ceci étant dit, Dominique Moll m'a appris à dire non, oui. mais pas dans le film. Et je me rappellerai pendant les essais, on a fait 3-4 semaines de répétition avant. Et le premier jour, j'ai dit, attends, 2 secondes, je prends juste un thé. Et puis Marie, il fait non. Et un non avec rien derrière, ouais. C'est assez déstabilisant.
Alors c'est
et donc
c'est
j'ai fait, non, j'en prendrai plus tard.
Vous êtes comme ça un peu vous, parce que vous avez l'air comme ça assez sympathique, assez discret par rapport au personnage que vous jouiez dans François Lambrouille, qui avait un peu l'air d'être votre anti-moi.
Ouais.
Donc vous pourriez être un peu cet homme comme.
Oui, moi j'ai du mal à dire oui et à dire non aussi en fait.
Ah, les deux.
Ouais.
Donc vous vous êtes identifié à votre personnage.
Oui. D'ailleurs, on voit les gens qui disent non. C'est sûr qu'il n'y a même pas besoin de dire « Ah, t'es sûr ?»
Au moins, c'est clair.
Et moi, je dis toujours de « Oh, non.
» Vous laissez la porte un petit peu ouverte.
Voilà, toujours un peu ouverte.
Surtout qu'en Belgique, on dit souvent « Non, merci. » Et les Français sont parfois déstabilisés, qu'on dise « Merci » après « Non
». Ah, dis non, peut-être.
Dis non, peut-être. Pour dire oui,
c'est vrai. Alors, votre trip d'acteur, vous, à chaque fois, un petit peu votre challenge, c'est d'insuffler beaucoup d'humanité à votre personnage. Ici, il est déjà assez humain, dès le début, et vous le poussez encore plus loin. Donc, il y avait un challenge encore plus fort.
Oui, c'est vrai que ça faisait un peu peur au début. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a finalement à jouer, en fait, quoi? L'accident va arriver de la part de Vincent Macaigne, mais donc moi, je vais juste alimenter, mais il va rien se passer. Pas que je voulais attirer les draps de mon côté, mais je me dis, à un moment, quitte à faire une film, on dit
Non, ici, c'est
oui.
Un film.
Oui.
Peu importe.
Vous êtes étranger, on veut pas.
Ouais. Non, quand on veut faire une bon film, Non, aussi, c'est une comédie, dit autant qu'elle soit marrante, quoi. Et là, j'avais peur, et puis en fait, quand je l'ai vu, on l'a projeté à Berlin, et même les Allemands ont rigolé alors que c'était sous-titré.
Tout. Les Allemands ont rigolé, ça ne marchait pas. C'est bon.
C'est un indice.
Vous êtes sauvés pour la prochaine fois.
J'ai l'impression.
Allez, François Damiens, c'est avec nous jusqu'à 18h. On en profite. Premier sujet avec vous. Les syndicats n'ont pas trouvé d'accord encore avec le gouvernement. Ils se revoient dans une semaine. Le bras de fer continue. Alors déjà, ce serait utile que les syndicats s'entendent entre eux. Imaginez que tous les syndicats s'entendent juste avant d'aller voir le gouvernement.
Eh bien, on doit les convaincre d'abord, d'accord?
D'accord.
Alors, d'accord?
D'accord.
Tous d'accord.
Parce que si on leur demande juste comme ça, eh bien, ils ne donneront rien. Hein? D'accord?
D'accord.
Ah ben, d'accord.
Donc, il faut leur forcer la...
Main.
Main.
La main.
La main.
D'accord.
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 D'accord. D'accord.
Voilà, c'est simple. Dans Les bénévoles de Jean-Pierre Mocky.
Ouais.
Alors, la figure du syndicaliste français, elle est presque aussi emblématique que le béret et la baguette. Le syndicaliste français, vous pensez qu'il est différent du syndicaliste belge?
Mais j'ai l'impression, enfin, les syndicalistes en général, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à détruire, en fait. Mais on ne construit rien et...
Protégé, on va dire.
Quoi? Pardon?
Attention, vous êtes sur une radio de gauche. Hein. Ouais, parce que là, moi, là, c'est pour votre carrière.
Je viens de perdre le prix Matmut. C'est très dommage.
Alors, dans leur attitude, c'est ce qui transparaît dans leur attitude.
Oui, mais je parlerai même de la politique en général, quoi. Ouais. Moi, je rêve un peu comme dans le film de Mocky. Ils arrivent que Sarkozy se dit « Hollande, qu'est-ce qu'il a pas comme boulot, l'air de rien ?» Et puis d'autres, ouais, mais attends, quand t'étais au pouvoir, c'était quand même pas triste non plus. Hein,
ah oui,
et qu'au moins, on inverse un peu le truc.
Mais vous êtes un idéaliste. François Damiens.
Ben non, c'est plutôt que c'est un peu gavant à la fin des entendre, on a l'impression que c'est des enfants, quoi. Et mmh. surtout quand ils réagissent sur des événements comme les attentats où on se dit ils essaient encore de se placer dans tout ce malheur. Mmh. Là,
vous trouvez qu'il y a une différence entre le syndicalisme français et belge, parce qu'en Belgique il y a beaucoup beaucoup de syndicalisme.
Ouais.
Généralement les syndicats se fédèrent et la manifestation est toujours le dernier recours. Ici c'est quand même pas tout à fait
je
ça.
Je trouve que les syndicalistes belges dans la forme sont quand même plus marrants, quoi.
Ah,
ils ont
un accent
italien. Vous rappelez de Doradio là.
C'était comment? C'est que... Sans expliquer aux Français.
Mais je me rappelle, je lui avais fait une caméra cachée. Il n'a pas voulu qu'elle passe d'ailleurs. On lui avait démoli sa bagnole. Il était sorti, mais il avait voulu me shotter, quoi. Mais comme il était un peu en embonpoint, il n'a pas réussi à m'attraper.
C'était un petit peu tu sors ou je te sors.
Ah, ouais. Il faut prendre une décision, mais elle a été vite prise, je peux vous dire.
Vous lui avez dit tout de suite que c'était une caméra cachée.
Mais il en avait rien à foutre, lui, par exemple. Contrairement aux Suisses, quoi.
En tout cas, ici en France, quand les syndicats tombent d'accord sur un truc, c'est toujours le même. C'est pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais on les aime comme ça, oui. Finalement. Faisons un bond en avant dans le temps, Alex, vous nous ramenez en 2021.
Oui, lui, c'est un cri, c'est un chant, comme dirait Michel Sardou, mais je ne suis pas certain qu'il aimerait que je le lance sur du Michel Sardou. Alors,
c'est un slam plutôt.
Oui, c'est ça, on va lancer Walidia.
Alors ça roule mes petits Mohamedo immigrationnistes, Jamil Owok, Moustaphozomiste, hein?
Oui.
Excusez-moi, c'est quoi cette odeur dégueulasse là? Il y a Émeric Lompré qui a chié sous la table avant? Il y a Philippe Val qui est revenu? Ah non, pardon! C'est l'odeur de la campagne présidentielle, hein? À côté, même un tas de poneys morts, ça sent la soupline. Non, on est en boucle sur des thématiques d'extrême droite. Là, on sent que soit il y a une entente politico-journalistique pour ne pas traiter de la catastrophe sociale qui s'annonce, soit il y a beaucoup trop de gens qui pensent que le racisme, ça peut se convertir en point à retraite, hein? Il nous reste encore 208 jours avant le deuxième tour. 208 jours à nous mettre la tension alors qu'ils ont même pas la décence de légaliser le cannabis. Franchement, ça se fait pas. 208 jours, ça veut dire qu'en moyenne de 2 émissions par jour où on l'invite, on va encore entendre 416 fois Zemmour nous dire qu'il combat le discours dominant alors qu'on n'entend que lui. Il est partout, il n'y a plus que sur Gulli et les 12 coups de midi qu'on l'a pas vu. Pour qu'une autre personnalité bénéficie de la même couverture médiatique, il faudrait qu'on apprenne que Michael Jackson est vivant et qu'il est en couple avec Xavier Dupont de Ligonnès. Là, on lui déroule le tapis rouge pour qu'il nous balance des chiffres au pif. C'est plus un polémiste, c'est un animateur de l'euro-million. C'est 50, 90, 25. Et les numéros complémentaires, l'islam. Il n'y a qu'un chiffre qui sort jamais. Vraiment, on n'a jamais entendu dire ce chiffre-là, c'est le chiffre 7. Parce que c'est exactement le nombre de femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. C'est fou. Il y a aussi le 63 qui dit jamais. C'est l'âge de retraite qu'il voudrait. Enfin, en tout cas, il l'applique déjà à sa femme, apparemment. Mais cela... Cela dit, je me faisais une réflexion. Les militants d'extrême droite de base, dont on connaît la tendance misogyne et antisémite, c'est quand même ironique de se dire que leurs deux seules options de candidats potentiels, c'est une femme et un juif. Et la troisième, c'est Philippot. En fait, c'est eux la culture woke. Il manque plus qu'un transgenre musulman et on est bon. Enfin, on parle des élections, mais la France aura peut-être déposé le bilan d'ici là. Si on continue à se faire arracher des contrats à 50 milliards, ils vont désactiver le badge de Macron au G8 avant janvier. Ah bah oui, pour le coup, avec le coup des sous-marins, là, les Australiens, je les retiens, moi. Franchement, quand ça va recommencer à cramer chez eux, le lien de la cagnotte Litchi pendant les incendies, ils peuvent se le ranger sous l'intestin grêle. Démerdez-vous avec vos merguez de kangourou, c'est plus notre problème. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que les Australiens s'entendent bien avec les États-Unis. Ils ont fait aux aborigènes ce que les Américains ont fait aux Indiens. C'est dans le passé, si t'avais en même temps des Anglais, des terres inconnues et des autochtones bronzés, t'attendais quelques années, t'avais plus que les deux premiers. Donc après, faire confiance aux Américains, concrètement, c'est demander à un serpent de prendre soin d'une souris. T'es les seuls traités qu'ils ont pas trahis, c'est ceux qu'ils ont pas encore signés. Je serais même prêt à croire Jean-Michel Blanquer avant n'importe quel ministre américain. Et pourtant, Blanquer, s'il ment pas 24 fois par jour, ils font. Donc en termes de mytho, la seule chose qui rivalise avec Blanquer, c'est les procès-verbaux des policiers qui ont tabassé les éclairs. Sinon, il n'y a pas d'équivalent. Heureusement, pour nous consoler et acheter nos armes, il nous reste nos amis, les Saoudiens, nos papas gâteaux, nos sugar daddy, qui nous font des virements entre deux exécutions d'opposants au régime. Parce qu'en France, on pourchasse les islamo-gauchistes, mais quand faut faire des courbettes aux salafistes pour qu'ils nous achètent nos machines à tuer, on a le genou souple, l'épine dorsale flexible et le sphincter accueillant. Si t'as flippé quand t'as vu les Marseillais à Dubaï, attends de voir les LREM à Riyad. À la mission taillage de contre-pipe acrobatique avec déboîtement des maxillaires à toute la pétromonarchie, ça va être sportif. Ils vont tellement ouvrir la bouche grand qu'ils vont se recoiffer avec les dents. Mais bon. Pas besoin de voyager aussi loin pour remarquer l'absence de dignité de nos dirigeants. À Paris, Anne Hidalgo a fait déplacer les SDF malades du crack de l'autre côté du périph, à Pantin. Elle a fait construire un mur pour les empêcher de revenir. Même Trump, il est pas allé au bout de son projet, mais dans sa tête à elle, le 93, c'est le Mexique. Autant faut protéger le sommeil des Parisiens, mais alors la Seine-Saint-Denis, rien à foutre. Depuis Jawad, ils sont habitués aux locataires bruyants, c'est bon, on peut y aller. Ce mur que certains appellent le mur de la honte aura au moins eu la vertu de nous démontrer que oui, Hidalgo peut finir un chantier dans la capitale. Bon, il en reste 4000 à terminer. C'est le seul endroit où il y a le plus de trous qu'à Paris, c'est en Syrie. Franchement, et encore Bachar al-Assad, il est obligé de pas dormir la nuit pour pas se faire dépasser. Je vais peut-être dire un truc qui va vous choquer, mais Hidalgo est de gauche. Ouais. Ça saute pas aux yeux, c'est vrai. Ouais. Surtout quand tu vois ce que la mairie de Paris développe contre les SDF, entre les pics au sol, les pierres coupantes, les bancs inclinés pour que tu puisses pas t'allonger. Là, il y a un appel d'offres pour installer des pièges à loups sur les bouches de métro et des mines antipersonnelles sur les ponts. Et ils auraient mis de la mort aux rats dans les fontaines publiques si les touristes s'en servaient pas. Mais elle est bien de gauche. Hein. La preuve, elle est à 4% d'intention de vote. Donc, il n'y a pas de doute, elle est socialiste. Et pendant que tout ce petit monde asperge le pays de fange autoproduite, on sera difficilement étonné du fait qu'on est en train de passer de pays des lumières à pays de la litière. Et il suffira pas d'avoir eu le Covid pour pas en sentir l'odeur.
Revenons 5 ans en arrière avec François Damiens. On avait trouvé un sujet très 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 original à lui soumettre, je dois dire.
Passionnant.
Troisième sujet, une star américaine du développement personnel, ça existe, a publié Miracle Morning, vendu à 80 000 exemplaires aux États-Unis. Le bouquin sort en France. Slate.fr en fait un article. Aujourd'hui, ce serait valorisant de dire qu'on s'est levé tôt pour faire des trucs avant le boulot. Encore un storytelling, Thomas Bideguin. Ouais. Star américaine, je rappelle qu'il y avait une star française qui avait compris ça avant tout le monde.
Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu? Parce que tous les matins, il faisait son...
Son petit déjeuner?
Petit déjeuner, je t'en foutrais, moi. Anne, parce que tous les matins, il faisait son...
Son lit?
Son jogging, bande de buse.
C'est quoi?
Son jogging. Faut que vous sachiez, les filles, que quand les Delpech, là, les Dev, les Sardou, rentraient de boîte de nuit pétées comme des coins, Claude... Des potrons minés, il était ici et yoguait. Ok? Ça, c'est un exemple à suivre. Je ne veux pas d'alcool dans cette team. Viens dans les têtes, hein? Magnolia!
Voilà!
Un extrait de podium, et il a raison. Pas d'alcool dans cette team.
Non,
c'est vrai, on est d'accord.
Donc, tout le monde a fait Claude François. C'est vrai la rumeur comme quoi vous allez faire le biopic de Mike Brandt pour le rattraper?
Ouais, on est occupé à regarder un peu les contrats. Mais c'est encore trop tôt pour en parler.
Donc, il y a une vague de développement personnel comme ça, qui est quand même une belle niche marketing. Et la dernière idée en date, c'est de dire qu'on peut avoir une vie avant le travail et qu'il faire du jogging, par exemple, ou de la méditation, etc. D'après les sociologues, le matin toujours été associé à la réussite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, François Damiens?
Oh, moi, j'ai du mal à me lever et j'ai du mal à me coucher.
Ah.
Et aujourd'hui, si vous aviez su... Je me suis levé pour venir chez vous.
J'aurais
du mal à dire que je crois aux gens qui se lèvent tôt. J'ai valu me coucher tard à ma décharge.
Ah, mais voilà. Donc, c'est pas forcément associé à la réussite de se lever tôt.
Non, je crois pas. Vous voyez à quel point je cartonne, là. Je suis occupé à exploser littéralement et vous venez dire des banalités comme ça.
Le mec se lève à 16h. Quel exemple pour la jeunesse.
Bah, cela dit, quand vous êtes en tournage,
Vous
explosez parce que vous...
C'est pareil.
C'est vrai, Thomas Bideguin, vous pouvez témoigner.
Mais oui, quand il est en tournage, c'est pareil. Non, c'est vrai.
J'essaie toujours de. Ouais, je me lève à la dernière minute et j'essaie toujours d'aller voir le premier assistant pour lui demander si on peut pas verser la séquence. Quoi. S'il y en a un, il faut être copain, c'est avec lui. Quoi.
D'accord, très bien.
Petit conseil aux jeunes acteurs. Ouais. Soyez copain avec le premier assistant.
Ah oui, direct. Là.
Donc, un petit peu de storytelling. C'était d'ailleurs un argument de Nicolas Sarkozy en 2007. La France qui se lève tôt, rappelez-vous.
Ah bah oui. Ça, c'était... Vous savez, dans ce discours, comme on peut aisément remplacer le mot France par le mot bite. Cette France qu'il faut sans arrêt redresser. Cette France qui appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bah, voilà, c'est tout. Le discours, il est simple.
C'est ce qui s'appelle
on
la
vous
Gaulle.
Parle de storytelling. Ouais, ouais. Bah, voilà. C'est César qui a inventé ça. Vous savez, il a eu la Gaulle et après, il s'est fait pomper.
Alors, c'est... Ah, voilà. Donc, alors, je pense qu'on va passer au sketch.
Non,
c'est une bonne idée.
Thomas Bideguin au théâtre des deux âmes. Ouais.
Et encore, il y en a un des deux qui est mort. Allez, hop là.
Et oui, François Damiens, c'est l'heure du sketch. Attention. Et je vous ai donné un rôle. Je sais pas si ça va vous plaire. C'est donc ce fameux dentiste. Le dentiste de Château Chinon,
ouais.
qui a tendance à arracher 8 dents à la fois. Et vous avez un nouveau client qui est Thomas Bideguin, une assistante Charline Vanhoenacker. Et on y va.
Bonjour madame, j'ai rendez-vous pour un détartrage.
Ah, le docteur Nirop termine un patient et il s'attaque à vous. Hein.
Ah, mais dites-moi, il est bien le docteur Nirop?
Ah, très très bien, tous ceux qui sortent d'ici ne portent jamais plainte. Hein.
Pardon?
Ne se sont jamais plaints.
Ah, et vous ça oh docteur Petiot à côté, c'est un génie.
C'est qui lui, par exemple?
Oh non, c'est rien, c'est un ancien patient qui a été très mal remboursé par sa mutuelle. Hein. Oui.
Entrez, monsieur.
Ouh là là, c'est à moi, là?
Alors, on part sur quoi?
Ben, moi, je suis venu à la base pour un détartrage.
Un détartrage.
Oui, un détartrage, vous savez, juste quand on gratouille un petit peu le tartre.
Oui, bien sûr.
Ben, attendez, vous cherchez quoi sur votre téléphone, là?
Ben, je cherche détartrage sur Google.
Non, c'est Google?
Non. Après, je vais sur Doctissimo. Et là, c'est quand même autrement mieux expliqué. Et dire qu'il y en a qui font la médecine. Non mais excusez-moi, vous, vous avez déjà pratiqué comme ça?
Bah, le patient précédent, les quatre dents de sagesse, elles sont là. C'est pas compliqué. Elles sont sorties comme des carottes.
Mais pourquoi il hurlait alors?
C'est parce que j'ai oublié l'anesthésie.
Oh là, mais attendez, je peux voir vos diplômes?
Non, non, mais attends, là. Par contre, je refais toutes les cloisons chez moi. 300 mètres carrés retapés, c'est autre chose que votre chicot, hein, si je peux me permettre.
Voilà, je vais sortir de ce fauteuil et puis je vais y aller.
Mais non, non, attendez, allez, monsieur monseigneur, attendez.
Non, 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 appelez-moi monsieur, ça suffira. Ça ira, merci.
Non, non, monseigneur, c'est la pince. J'ai vu que vous aviez une carie, donc faites « Ah !» Bah non, non plus, là, je peux rien mettre dans votre bouche, là. Bah, je recommence. Bah, non, là, je peux rien y mettre dans votre bouche. Voilà, on y voit plus clair. Oh, mais dites-moi, c'est un squat là-dedans.
J'ai quitté le navire. C'est la jungle décalée. Va falloir expulser du migrant.
Attention, ça va piquer. Non!
Aïe. Bon, moi, je... Oh, aïe, aïe. Quand tu veux, pour ouvrir la bouche.
C'est une comédie d'auteur.
Non, mais arrêtez, mais vous m'en avez arraché combien?
Bah, disons qu'il va falloir un gros sac, la petite souris, comme on dit.
Docteur la police, pour votre rendez-vous de 11h.
Je pose une couronne et j'arrive. Une couronne de fleurs, parce que votre dentition, elle est morte.
Parce que vous êtes drôle, docteur.
Humour de dentiste.
Que de rigolade, mais que de rigolade. Et c'est pas fini, il en reste encore un petit peu, je pense.
Un petit peu la cerise, ouais, sur le gâteau, en chanson. Frédéric Fromet qui nous chante le variant Omicron. Omicron, enfin, vous, comme vous voulez, quoi, tant que ça se chante.
Eh ben, j'entends partout que le nouveau variant du Covid-19 se prononce Omicron, parce que c'est du grec. Ouais. Alors pardon, hein, mais Omicron, pour moi, ça fait plutôt espagnol.
Aïe, aïe, aïe.
Plétano de Omicron, Omicron, putano. Mutation, mutation, putana, contamination, hospitalisation, aïe, 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 putano de Omicron, Omicron, putano, putano de couvillon, couvillon, putano, la distanciation, masque de protection, aïe, 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 infection. Putano de Omicron, Omicron, putano, putana de transmission, transmission, putana, odor a disparition, ou disparition, aïe, 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 inflammation, pauvre poumon, suffocation, plus de respiration. Je sais qu'il y a des auditeurs qui aimeraient bien que ça m'arrive. Putano e Omicron, Omicron, putano. Putana d'attestation, attestation, putana. Isolation, muchas restrictions. Aïe, aïe, aïe. Putano e Omicron, Omicron, putano. Viva la vaccination, viva vaccination. Immunisation, eradication. Aïe, guérison. Omicron, Omicron, putano.
Et le dernier accord de guitare annonce la fin de l'émission. Mais le début d'une autre, demain,
exactement.
Alex Visorek, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on reçoit demain?
Oh là là, demain, nous recevrons Luz et Isabelle Nanty.
Très beau.
Ça donne envie.
Oui, j'ai envie.
Je comprends, à demain.